France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Christophe Coin. Je suis né à Caen en 1958. Je suis musicien. Je joue en particulier le violoncelle, la viole de gambe, entre autres.
En 1970, vous entrez au Conservatoire de Paris, c'est-à-dire que là, vous avez fait le choix de donner au violoncelle et à la musique une grande part de votre vie.
On était trois ou même quatre violoncellistes de Caen, élèves de Ripoche, à rentrer cette année-là. C'était quand même...
C'était une bonne pépinière alors, chez Ripoche.
Un bon cru, oui. Un bon cru.
Vous entrez chez qui ? Alors,
je rentre dans la classe d'André Navarra. Il y avait à l'époque trois professeurs, donc lui, Maurice Gendron et Monsieur Michelin. Et c'était Jacques Ripoche qui avait choisi Navarra pour moi. Il pensait que c'était la meilleure, l'école la plus sûre, vu mon âge, vu mon peu d'expérience du répertoire. Enfin, j'étais quand même... Je suis rentré... pas dire trop jeune, mais en tout cas très jeune, quoi.
Vous n'avez pas vécu à Paris à l'époque, vous faisiez les allers-retours.
Je faisais les allers-retours, il m'arrivait de dormir à Paris ou à Versailles chez ma tante, mais la plupart du temps, je faisais des allers-retours.
Tout seul, alors, comme un grand.
Ouais.
Et ça, cet apprentissage-là, c'était une joie ou c'était un peu vertigineux au départ? Est-ce que vous vous souvenez de ça, est-ce que vous aviez une forme d'appréhension de dire bon, voilà, je prends mon train, j'ai dans ce grand conservatoire, je reviens, ou bien vous aviez hâte justement d'avoir cette liberté, d'avoir cette autonomie?
Bon, le conservatoire était rue de Madrid, donc n'était pas loin de la gare Saint-Lazare, qui était ma gare pour Caen. Mais je me rappelle que monter à la classe de la gare, et surtout si j'avais pas travaillé suffisamment, j'avais quand même un peu la boule au ventre. Et il m'arrive parfois, quand je remonte la rue de Rome, d'avoir cette sensation encore. C'est très étrange, mais bien que Navarra était un professeur très, très paternel et très bienveillant aussi, mais il lui arrivait d'avoir des humeurs et des moments, surtout en retour de tournée où il était fatigué. Lui avait une technique particulière, c'est-à-dire que, quel que soit le travail qu'on avait fourni, il faisait, on va dire, entre guillemets, il faisait sa fête à un élève, une fois de temps en temps, chacun son tour. Et ça n'avait rien
sans
à
fondement.
Voir. Voilà, sans fondement, sans... Bon, ben voilà, c'est aujourd'hui, c'est toi, tu vas le sentir passer, et puis voilà. Et on peut dire que c'est une méthode idiote, mais je ne suis pas si sûr que ça. Je crois que...
Qu'est-ce que ça procurait de bon, alors ?
Ben, le fait de voir qu'il n'y a pas que d'avoir le sentiment d'avoir bien fait, bien travaillé, d'être au point et puis d'amener quelque chose de propre à la classe, parfois ça ne suffit pas. C'est assez évangélique, je trouve.
Quand on arrive de chez Ripoche et qu'on arrive chez Maître Navarra, Christophe Coin, on est avec ses cordes en boyau. Le professeur Navarra est d'accord avec l'enseignement que vous avez reçu de Monsieur Ripoche. Comment les choses se passent quand vous arrivez dans sa classe?
Bah non, il faut tout changer. Il faut tout changer. Donc la technique d'archet. Puis surtout, quand il nous donne un concerto, il faut aller chez lui, prendre les doigtés. Donc ça, c'est un rite. On va rue de Moscou, au 14, et on sonne, et Madame Navarra vous ouvre, et ouvre la bibliothèque si le maître n'est pas là, et vous donne la partition, et on copie soigneusement les doigtés, les coups d'archet. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de libre arbitre, c'est comme ça qu'on joue. Et je dois dire que ça aussi, à l'âge que j'avais, c'était formidable, parce que c'était des garde-fous, c'était... Même si le poids de la tradition peut paraître... un peu trop lourd, je pense que c'est bien de commencer par ça. Après, on peut toujours renier ou mettre en question, mais c'est très sain.
Quand on a eu un prof qu'on adore, comme vous, vous avez tellement aimé Ripoche, est-ce que vous vous retrouvez un peu déchiré aussi entre mon professeur d'avant me demandait ça, lui me demande autre chose, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que vous avez vécu ça aussi? Est-ce que vous avez...
Oui, un petit peu, surtout que parfois je revenais à Caen, M. Ripoche remettait en question, ah bon, il fait faire ça, mais bon, enfin. Alors évidemment, on est un peu perturbé. À côté de ça, il y a quand même la réputation d'un soliste international et d'un professeur qui a formé autant d'élèves que Navarra. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Donc il y a aussi cette aura et cette réputation intouchable. Et puis je vous dis, c'était une personne extrêmement bienveillante et surtout qui savait se placer par rapport à la musique. Il disait lui-même, moi je suis un artisan plus qu'un artiste. Il respectait beaucoup le texte. Il n'aurait jamais fait une cadence dans le concerto de Schumann. Même si son jeu des suites de Bach n'est pas du tout mon style aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai appris un contresens sur les suites de Bach avec Navarra. Il connaissait parfaitement l'art de faire les ornements, il l'avait travaillé, il c'était toujours intelligent. Il ne prenait pas d'initiative au-delà de ce qu'il pensait pouvoir être dépasser le texte. Contrairement à d'autres musiciens aussi excellents, comme Tortelier, mais qui ont une personnalité tellement envahissante que voilà, ils extrapolent peut-être par rapport au texte. Navarra, pas du tout. Et c'est ce qui faisait son... Je pense à sa qualité de musicien. On l'entend quand on entend son Dvorak, son Schumann, même Saint-Saëns, enfin tous les disques qu'il a fait, c'est ça, c'est le respect du texte. Et puis une technique d'archet époustouflante qui...
Oui, il y a une grande réputation de cette technique d'archet.
Voilà, qui me rendait aussi, comme, de même que le son de Ripoche était pour moi un exemple vivant, l'archet de Navarra, c'était aussi l'idéal à obtenir, quoi.
On refait des cordes à vide quand on arrive chez Navarra?
Oui, on refait tout. Il faut tout recommencer. Et même dans un apprentissage spirituel, les gens qui vont dans un monastère au Japon, ils doivent aussi passer par la petite porte. Donc je crois que c'est pas mal d'avoir ça, une fois dans sa vie.
Regardez bien. Commencez avec le poignet haut, le poignet incliné en direction de la pointe, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, et vous faites ceci.
André Navarra.
Et ne pas dépasser le milieu. Lorsque vous avez fait cela, il faut commencer à travailler les extrémités de l'archet. Je ne vous parle pas du milieu de l'archet, car je suis certain que l'archet s'équilibre de lui-même lorsqu'on a travaillé le talon et la pointe. Ce travail-là est très long. Il ne faut pas vous décourager. Bonne chance.
L'âge où vous êtes élève d'André Navarra, en gros 12 ans, 16 ans, c'est l'âge aussi où le jeune homme se construit. Il construit son goût musical. Qui sont vos phares à l'époque?
Alors j'écoutais beaucoup de musique, je continuais à aller beaucoup aux concerts. À Paris, je me rappelle, j'étais abonné à la saison de Quatuor de Marcel Lovinguth. C'était Théâtre de la Madeleine, je crois, et tous les samedis, pratiquement, on allait écouter les grands quatuors. J'ai entendu tous les grands quatuors mondiaux pendant ces années au conservatoire. Et ça, c'était une expérience aussi extraordinaire. Peut-être qu'il y a, m'a donné le goût du quatuor que j'ai repris après, mais je me rappelle avoir entendu un quintet de Schubert avec Amadeus et William Pliss, où j'étais tellement ému que j'ai oublié de prendre mon violoncelle au vestiaire, et je m'en suis aperçu que le lendemain matin. Donc, heureusement, il l'avait gardé, mais c'est des expériences très fortes, ou le quatuor Weg, ou la salle dans de la musique plus contemporaine, Webern, etc. Enfin, il y avait le trio à cordes de Paris aussi, il y avait énormément de concerts très très vivants, intéressants, où n'allaient pas forcément d'ailleurs mes camarades, mes collègues, mais moi j'étais toujours fourré là. Plus que dans les concerts symphoniques ou l'opéra.
Dans votre vie de musicien, là, je saute évidemment plein d'étapes, mais vous vous êtes pas tellement attaché à l'opéra. Il y a certes le répertoire sacré avec les cantates. Enfin, on se demande, enfin, je me demande si jamais le mot, c'est quelque chose qui a pour vous une force particulière, ou est-ce que la musique dit mieux ou plus profondément pour vous les choses et les sentiments?
Peut-être, effectivement. Bon, il faut dire que tous les livrets d'opéra ne sont pas des chefs-d'œuvre littéraires. Mais je pense qu'une musique qui n'a pas de mots, ou en tout cas, qui, même si elle a des mots, comme chez Bach, même s'il n'y avait pas de mots, on comprendrait quand même, on ressentirait quand même le message de l'air d'une cantate. D'ailleurs, les gens qui ne comprennent pas l'allemand ou qui ne sont pas spécialement croyants, ils apprécient la musique avant tout. Donc je crois que c'est cette forme d'art abstrait, finalement, qu'est la musique, qui est au-dessus de tout. Appréhender ce langage, oui, qu'on dit être universel, mais qui c'est un peu vrai finalement. C'est quand même une expérience pour un enfant extraordinaire.
Avec Navara, vous travaillez dans le sens de devenir un soliste, un chambriste, un musicien d'orchestre. Est-ce qu'il y a déjà en germe l'idée d'une carrière derrière, et si oui, laquelle?
Je pense que Navara avait des vues pour que je fasse des concours internationaux et que voilà, je devienne un soliste. Et de toute façon, l'apprentissage, de par le répertoire, c'était, tu travailles les concertos, et de toute façon, même si tu ne deviendras pas soliste, c'est ça qu'on te demandera quand tu feras une audition pour rentrer dans un orchestre, donc tu as intérêt à les jouer bien. Et c'était un peu ça. La musique de chambre, il avait fait du quatuor, Navara, il a fait partie d'un quatuor, mais il le cachait bien et il m'a dit... Mais le quatuor, c'est pour les vieux barbus. Qu'est-ce que tu fais dans un quatuor à ton âge? Enfin, il considérait que c'était un peu une perte de temps pour moi.
Et vous, c'est l'équilibre parfait pour vous?
C'est le violoncelle en puissance 4. Quoi. C'est les cordes, c'est quand même 16 cordes mises ensemble, donc ça n'a pas de limite.
France Musique, les grands entretiens de Christophe Coin.
Le vrai choc que j'ai eu pendant mon conservatoire, c'était d'entendre Jordi Savall avec Trevor Pinnock et Preston à la flûte, qui suivaient, enfin qui illustraient une très belle exposition qui était organisée par le musée instrumental et Londres, mis ensemble par la comtesse de Chambure, et c'était l'occasion d'entendre les Coïcaines, d'entendre Jordi, etc. Et je me rappelle très bien avoir passé une soirée où je ne comprenais pas, parce que je connaissais les doigtés de la viole de gambe, donc j'arrivais à reconnaître les notes, mais comme ils jouaient à un diapason qui n'était pas 440, j'avais l'oreille absolue, je ne comprenais pas du tout pourquoi ils jouaient un ré, j'entendais un do, enfin c'était une autre note, donc je crois qu'ils jouaient même 392, la musique française. Mais cette liberté d'entendre une musique où rien n'est écrit, il n'y a pas de dynamique écrite, de tempo, forcément, c'est ce côté un peu plus aléatoire et qui laisse une place plus grande à l'interprétation, à la personnalité, ça m'a fasciné évidemment.
C'était une fantaisie aussi. Vous aviez le sentiment qu'il y avait la place d'une certaine fantaisie, d'une part d'improvisation.
C'est ça, de sortir du carcan de la tradition auquel j'étais habitué.
Et c'est ça qui vous a fait vous rendre compte que vous étiez dans un carcan ou vous l'aviez déjà senti?
Oh ben je le sentais déjà un petit peu parce que forcément, quand on est jeune, on est parfois un peu rebelle, on a envie de jouer différemment, de s'imposer, d'imposer son une autre manière de jouer. Je me rappelle à Vienne parce que après mon conservatoire, vu que je suis sorti trop jeune, Navarra m'a dit viens avec moi encore une année à Vienne, et donc j'ai eu une bourse pour aller à Vienne. Et là, il y avait un violoncelliste, excellent violoncelliste écossais, qui Sandy Bailey, Alexander Bailey, qui est professeur à Bremen, je crois, maintenant, et qui jouait l'allemande de la sixième suite pour Navarra. Et lui, il partait justement de piliers harmoniques, donc considérait qu'il ne fallait pas le jouer trop lent, beaucoup plus vite en tout cas que le tempo officiel de la classe de Navarra. Et moi, j'étais tout à fait d'accord avec mes copains, évidemment, mais je n'osais pas le dire. Donc Navarra commençait à argumenter, puis il s'énervait parce que l'Écossais, un bon Écossais, lâchait pas le morceau. Et donc Navarra, cherchant un peu d'aide, se tourne vers moi et me demande « Mais toi, Christophe, tu joues pas ça à ce tempo ?» Alors moi, très embêté, parce que je voulais quand même être solidaire de mon collègue, je réponds « pas à la classe !» Ce qui était la vérité. Il m'a regardé, il m'a dit « Salaud !» c'était gentil, il avait compris que il était quelque part un peu dépassé, mais en même temps, on le respectait tellement.
Il était dépassé parce que au même moment, la révolution baroque qui se fait et ça met un peu, ça fragilise peut-être l'académisme.
C'est ça, oui.
Mais il en avait peur ou
non pas du tout parce que lui avait.
Mais ça lui a pas fait se poser de questions.
Il s'est posé les questions parce que quand vous entendez ses sonates de Bach pour viol de gambe qu'il a joué au violoncelle avec Ruggiero Gerlini, dont j'ai retrouvé le vinyle récemment d'ailleurs, c'est extraordinaire le travail qu'il a fait. Donc il se posait des questions vraiment sérieusement, mais je pense qu'il connaissait pas la mouvance, Arnoncourt, etc. Il savait que ça existait, mais c'était un peu tard pour lui aussi, il n'allait pas se remettre en question lui à son âge et à son stade de carrière, de toute façon. Et puis il était persuadé, avec raison, que c'était pas nécessaire. Il m'a dit, quand il a su, c'est pas moi qui lui ai dit, mais quelqu'un bien intentionné a dû lui dire que je faisais de la viole de gambe parallèlement avec Jordi Savall. Une fois, il m'a dit, t'as pas assez de problèmes avec 4 cordes, il t'en faut 2 de plus. J'ai pas osé lui dire qu'il y en avait même 3, mais pareil, c'était demandé de manière très paternelle. Il était un peu déçu. Je pense que je consacre pas tout mon temps au violoncelle, c'est simplement ça.
Thank you. Comment vous le définiriez, l'interprète, justement, Christophe Coin? Il est créateur?
Il faut rester modeste, parce que, comme disait Navarin, je crois qu'on est avant tout des artisans. Ce qu'il faut, c'est donner des idées de lecture qui soient le plus respectueuses possible, mais le plus riches possible. Et laisser quand même une place à l'auditeur de faire sa propre lecture, si vous voulez. Comme un enfant qui va écouter un conte et va s'imaginer aussi ces images. C'est ce qui fait la beauté de lire ou d'entendre par rapport à voir. Et donc, comme on entend de la musique, on peut susciter des images, on peut susciter tout un monde. Et il faut respecter aussi cet espace-là de l'auditeur.
Et ça veut dire que dans ces cas-là, on se muselle?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut travailler suffisamment de facettes les plus complexes possibles pour que de ces facettes reste quelque chose qui va transparaître. Et ça, Glenn Gould le faisait, il le disait aussi, il l'explique, dans le fait qu'il travaillait dans différents tempos, avec des nuances qui étaient contraires, etc. Les acteurs le font aussi dans le théâtre, ils travaillent ça, pour que au moment où il y a la spontanéité, il reste quand même quelque chose de ça. Et du coup, ben, cette étincelle-là, elle va rester dans l'espace et va être perçue aussi par l'auditeur, peut-être. Mm-hmm. Peut-être pas, mais en tout cas, il y a eu l'effort et c'est déjà beaucoup. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est pour ça que les interprétations qui n'ont pas toutes ces strates et cette profondeur, comme dans les premières photos des Frères Lumière, eh bien, elles sont plaquées. On dit en allemand plakative. Mmh. C'est pauvre. Mmh. C'est trop pauvre. Et je pense que l'auditeur, lui, sait faire la différence aussi.
Scott Ross et l'ensemble Mosaïque dirigé par Christophe Coin dans le concerto BWV 1056 de Bach pour refermer ce deuxième épisode des grands entretiens avec Christophe Coin. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Yves Lehors, mixage Éric Villenfin, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr et l'appli Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.